Assalam alaikum, shalom, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023 et après l'esplanade du Palais des Congrès qui nous a accueillis hier dans le cadre du Miata, nous retrouvons le studio de Canal FM aujourd'hui dans une version plus traditionnelle du Club de la Presse avec autour de moi trois confrères déjà installés. Le quatrième est en train d'arriver. Cette émission qui sera réalisée par le duo Etekosi Thomas Datevi et Jérôme Kodjo Akucha. Et à l'animation, nous sommes vendredi, je suis aujourd'hui El Hadj Hassan. Avec autour de moi, est-ce l'effet d'un hasard ou bien le Miata ou bien la suite du mois d'octobre dédié à la consommation locale? Moi-même et tous mes invités, nous sommes tous en tissu pagne. Commençons par le bazar Francesco Bande Cosina Pokura. Bonjour, bien Apoya.
Merci à vous, bon, s'il vous plaît.
Tu vas bien?
Je vais bien. Et chez vous?
Rends grâce à Dieu.
Bonjour, auditeurs, auditrices.
Le deuxième confrère, je sais seulement qu'il est des hauteurs des plateaux. Je ne sais pas s'il est d'Agou, de Cloto, de Dani. Il s'appelle Godson Ketomania. Il écrit pour le journal Liberté. Bonjour. Le micro, Godson, tu vas devoir changer de micro, s'il te plaît. Le temps que, en attendant de revenir dans les plateaux, je monte sur les montagnes Kabye qui nous ont produit Sahana, Germain, Pouli, Biasma.
À la fière, mon Ocelle.
Tu vas bien?
Grâce à Dieu, grâce à Dieu, ça va.
Et toi, c'est le journal Togo Réveil, dont j'ai la version numérique aujourd'hui. Remontons sur les plateaux avec Godson Ketomania. Bonjour.
Bonjour, Sas. Didifa, Mosela, Mikondia.
Fonia.
Mifon.
Tawa, Monsieur Mofonia.
Monsieur Moboko.
Ok. Un auditeur qui a appelé hier qui aurait souhaité que cette émission s'anima en langue locale. Évangéliste Senghor, si vous nous écoutez, au moins nous vous saluons. Et j'espère que quand vous le ferez, par la ligne, vous le ferez également en cambien et pas toujours dans la langue d'autrui. Et nous attendons le quatrième confrère invité, juste à l'endroit de mes parents qui nous écoutent à Haoutoué et que nous allons rejoindre incessamment. Nous les saluons et nous associons à ce deuil qui a frappé tout le canton de Haoutoué, notamment le décès subit le 1er octobre de M. Adjoto Yao Christophe, qui était le représentant du futur chef canton, qui a quitté si subitement le monde des vivants. Il sera inhumé demain samedi. Dans le deuil, nous disons beaucoup de courage, non seulement aux auditeurs, à la population de Haoutoué, mais à tous ceux qui nous écoutent et qui sont frappés par un deuil ou un autre. La pensée du jour, nous la tirons de William Sinclair qui a écrit que quand tu as du mal à dire non, l'abus t'apprendra à le faire. Même quand tu as du mal à dire non, l'abus t'apprendra à le faire. Cette pensée peut nous amener à penser à tous les cas d'injustice de par le monde entier. Ce qui se passe entre Israël et Gaza, sans parti pris, mais nous compatissons à tout le malheur aussi bien qui a frappé, tous ces malheurs qui ont frappé aussi bien Israël le 7 octobre, quand les commandos du Hamas ont décimé des familles entières, mais en même temps la riposte que Israël organise depuis bientôt 4 semaines, cette riposte également qui s'en prend à des victimes palestiniennes, c'est des cas d'injustice qui doivent nous révolter. Ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe avec les agressions terroristes au Mali, au Burkina, au Niger, au nord du Togo, un peu partout dans le monde. Godson, on ne finira pas de citer tous les cas d'injustice, mais, comme l'écrit William Sinclair, même quand nous avons du mal à dire non, tous ces abus d'injustice devraient nous amener à dire non à tous ces cas-là.
Effectivement, Sass, merci encore pour cette pensée. Je n'ai pas peur de l'avouer. Que au temps de l'ancien premier ministre israélien Ariel Sharon, j'étais un fervent défenseur de la cause israélienne. Mais il y a un adage qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Comme tu n'es pas imbécile, tu changes d'avis.
Je te laisse deviner la suite. Il suffit, je n'ai même pas encore lu l'article, de voir ce qui se passe à Gaza.
Dans la de Gaza.
Où on a vu un corps enché à un char qui est en train de le traîner par terre. Un char israélien. Les Américains qui, au début, et leurs amis européens, avaient donné carte blanche à Israël en disant que cet État a le droit de se défendre. Aujourd'hui, si on leur reposait la question, je crois que leur langue devrait se retourner parce que ils étaient loin d'imaginer les atrocités dont les soldats israéliens pouvaient être capables. Moi, je l'ai dit la dernière fois que le Hamas a porté un coup très condamnable. Ça, je le répète. Seulement, la riposte israélienne, même si elle en vient à décimer tout le peuple palestinien, ne va jamais laver l'affront que le Hamas a infligé à Israël. Qu'à cela ne tienne, l'heure est à l'acceptation de deux États, israéliens et palestiniens. Autrement, les enfants des victimes palestiniennes aujourd'hui grandiront et les causes produisant les mêmes effets. On ne sera pas surpris que d'autres actions plus meurtrières venant toujours des Palestiniens frappent encore Israël.
Nous ne voulons jouer nullement à Cassandre, porteur de mauvaises nouvelles, mais nous rappelons seulement que Israël, qui a vécu des drames durant des millénaires, qui a été chassé de sa terre, qui a erré sans pas des millénaires. Israël, qui a été la principale victime de la Shoah, avec au moins 6 à 8 millions de juifs tués atrocement par les nazis. Israël devrait comprendre plus que quiconque que les Palestiniens ont droit à une terre qui soit leur patrie. Ça, surtout avec la foi, la religion et puis l'histoire, on doit pouvoir comprendre ça. Nous ne prenons aucunement parti, mais nous nous trouvons révoltés, voire révulsés par toutes ces atrocités qui se passent un peu partout, en Israël, à Gaza. Mais on peut multiplier les cas. Franco et Germain, vous connaissez d'autres cas, sûrement de par le monde entier.
Oui, il y a plusieurs cas. Il y a le cas entre l'Ukraine et
la Russie.
Et la Russie, les gens ont supporté l'Ukraine et visiblement, avec le cas israélien, on pense que personne ne parle plus de ce conflit. Il y en a encore d'autres sur le continent et on se demande à quand sera la paix sur ce globe-là. Parce que de plus en plus, on constate que les guerres, les affrontements sont devenus, disons, monnaie courante. Et ça s'amplifie au fil du temps. Nous avons même dans Tapa Express un article sur le cas, j'accuse, du docteur Ernest Moreau, qui dit effectivement que le Hamas a commis une erreur monumental.
C'est pas une erreur, c'est un crime.
Monumental en allant tuer les Israéliens. Mais jusqu'où va la riposte israélienne? On dirait qu'ils ont poussé la barre plus loin. Et il va falloir que les deux camps extrémistes, parce que ici, c'est deux camps extrémistes qui tiennent en otage des populations civiles. Des femmes, des enfants, il faut les
Merci.
Voir.
À propos de la paix, vous rappelez cette pensée du jour que nous avons partagé une fois. La paix sera réellement universelle quand l'humanité, c'est-à-dire quand nous les hommes, nous serons unis vers cette paix. Germain Pouli?
Oui, je crois que ça fait beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Pas seulement l'homme qui inflige la souffrance à l'homme, comme on l'assiste en Israël, dans la bande de Gaza, où des extrémistes, comme le disait tout à l'heure Francisque, ont mis le feu aux poudres, si on peut le dire. La riposte est disproportionnée, on est tous d'accord. L'attaque aussi a été très cruelle. Maintenant, il faut que tous ces Occidentaux-là qui soutiennent Israël et qui n'ont pas totalement tort, aussi appellent Israël à la raison pour limiter les dégâts, parce que ce qui se fait aujourd'hui, demain, il y aura un autre épisode de cela. Les gens sont en train même d'oublier l'attaque du Hamas. On ne voit que la riposte d'Israël. Et donc, demain, Hamas, en attaquant la dernière fois, dit qu'ils étaient en train de venger les Palestiniens pour toutes les souffrances. Aujourd'hui, peut-être demain, quelqu'un va naître pour dire aussi qu'il va venger ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est l'homme. À l'homme, parfois, c'est la nature. Et ça change sur nous. On a vu le tremblement des terres en Turquie. On en a vu au Maroc. On a vu en Libye aussi, avec ce qui s'est passé, des catastrophes naturelles. Et vous verrez que certains qui croient en Dieu sont en train d'y voir déjà des signes de la fin du monde, parce qu'on a rarement vu autant de violence. Nous n'avons pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais là, il n'y a pas la guerre d'une telle ampleur, mais les dégâts causés aujourd'hui, la violence, les morts et la souffrance. Je crois que l'homme doit revenir à la raison, aller un peu plus vers Dieu, parce que j'ai comme le sentiment que l'homme n'écoute plus Dieu, il écoute son instinct, il écoute ses capacités de réaction. Et ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou dans la bande de Gaza ou en Israël, est très triste. On n'oublie pas l'Afrique, où nos propres populations s'attaquent à nos peuples. Quand on parle de terrorisme et de djihadistes, ce sont des nationaux habituellement qui attaquent leur propre pays aujourd'hui pour des raisons qu'on ne connaît pas du tout. Il faut que l'homme revienne à lui-même, il faut que les chefs religieux spirituels, j'allais dire, se mettent à l'œuvre pour que la conscience humaine vienne.
Merci à Germain, merci à Godson, merci à Franco, et merci également à Olivier Yahouadja qui vient de nous rejoindre. Bonjour Yahou.
Bonjour Sass, et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. J'aimerais quand même placer un mot sur la question palestinienne-israélienne, c'est selon. Oui, c'est vrai que vous savez, Germain l'a soulevé ou l'a relevé tantôt, que Israël ne fait que répliquer à une attaque. Bien sûr, le Hamas aussi dira que voilà, il ne fait que réagir à une occupation, à des dizaines d'années, voire plus de.
Et justement, cela devient une escalade sans fin depuis des décennies.
Absolument, c'est regrettable. Et la communauté internationale, elle est impuissante, ou elle se montre impuissante, c'est selon. Puisqu'il y a certains qui soutiennent Israël, et en tout cas de tout leur poids, et il y a d'autres qui sont engagés aux côtés des Palestiniens. Il y a des milliers de morts depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je dirais que rien n'explique le meurtre ou la mort d'enfants dans un conflit où c'est ces enfants qui paient le lourd tribut. Et je ne crois pas que les Palestiniens tués, les petits Palestiniens qui sont morts, font partie du Hamas ou sont des éléments du Hamas, où Israël agit en prévention, peut-être pour que demain ils ne deviennent pas, après avoir pris de l'âge, ils ne deviennent pas des membres ils n'adhèrent pas ou voilà, ils ne rejoignent pas les rangs du Hamas. Et je crois que il faut faire en sorte d'arrêter ça. Je sais qu'il y a des puissances dans ce monde qui ont le pouvoir d'arrêter ça. D'accord? Mais soit ils ne le veulent pas, soit ils ne le font pas. D'accord? Parce que les États-Unis aujourd'hui ont le pouvoir de pouvoir agir sur ce conflit. Ils ont le pouvoir de demander à ce que Israël fasse l'effort d'arrêter la tuerie d'enfants, de femmes, de vieillards. Et par rapport à une réplique ou à une vengeance, je crois que il faut quand même que nous aussi nous tirions des leçons de ce genre d'événements, parce que ce sont des questions de terre qui divisent ces deux peuples. Au-delà, peut-être les gens diront aussi que ce sont des questions religieuses, mais d'abord c'est la terre. D'accord? La terre, on est né, on est venu voir cette terre-là, on partira certainement et on le laissera comme de l'argent, comme on le dit, mais il ne faut pas s'entretuer pour ces genres de
Merci.
Valeurs.
Merci. Tu as parlé des puissances. Nous apprenons que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va se rendre dans la région aujourd'hui. Et c'est la suite d'un défilé qui a commencé avec Joe Biden, le président américain, qui s'y est rendu. Le président français Emmanuel Macron y est allé. Le premier ministre britannique Rishi Sunak y était aussi. Le chancelier Olaf Scholz, chancelier allemand. Tout un défilé. Mais gardons espoir l'espoir va prendre forme sur cette terre-là. Revenons ici au studio, c'est vendredi, nous faisons le point de la semaine et ce que nous avons noté dans l'actualité tel que vos journaux l'écrivent au jour le jour, c'est d'abord un volet diplomatie, coopération avec ce que Faure Gnassingbé allait faire à Paris dans le cadre d'un forum et la première ministre Victoire Sidomeho Tomega Dogbe qui a reçu son homologue de la Corée du Sud. Et puis il y a des rapports de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui portent des données économiques favorables pour notre économie. Et puis nous allons confronter tous ces chiffres positifs à la réalité avec nos foirés marchés. Et puis nous allons terminer par ce que vous avez écrit sur la situation politique dans notre pays, aussi bien dans le cas du pouvoir que dans le cas des oppositions. Commençons par ce que le canard indépendant, nous rappelle, à savoir cette 22e édition du Forum économique international sur l'Afrique qui s'est tenue à Paris sous le thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable ». Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, y était, qui a prononcé un discours dont le journal prend un extrait. L'État, a dit Faure Gnassingbé, l'État doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. Ce forum a été organisé par l'OCDE et la Commission de l'Union africaine. D'après ce qu'on nous a dit, Faure Gnassingbé a été le seul chef d'État convié à audit forum. Togo Matin y consacre deux articles aussi. À la page 3, 22e forum de l'OCDE, Faure Gnassingbé qui a porté la voix de tout le continent africain. Et puis, autre article, toujours de Togo Matin, Faure Gnassingbé qui a évoqué les opportunités d'investissement en Afrique. Autre journal, c'est l'Éveil de la Nation qui écrit lui aussi à sa manchette. Faure Gnassingbé qui a plaidé pour une amélioration du climat des affaires pour favoriser l'investissement privé. L'Union écrit lui aussi mobilisation des investissements privés avec une citation de Faure Gnassingbé. Il faut repenser le rôle de l'État, a dit et soutenu Faure Gnassingbé. Puis, terminant par Togo Réveil, Germain, ton journal écrit Faure Gnassingbé qui s'est montré optimiste pour l'avenir du continent africain à ce forum. Germain?
Oui, tout à fait. Je crois que, comme on le dit, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Je ne suis plus dans le on n'est plus dans le berceau de l'humanité, mais c'est plutôt l'avenir du monde. Et c'est un continent aux multiples opportunités où tout est à construire. C'est un continent aussi qui a une jeunesse qui, si elle est bien formée et canalisée, sera le moteur de la croissance demain. Et l'Afrique, c'est le pays des richesses naturelles dont on parle depuis tant d'années. Aujourd'hui, cette Afrique-là a besoin d'investissements qui peuvent promouvoir son développement. Et donc, le chef de l'État togolais, qui a été le seul invité, vous l'avez dit. Seul chef d'État, oui, j'allais dire invité, est allé défendre cette Afrique-là. Et nous, on a mis en avance son optimisme. Il a quand même remis la balle dans le camp des Africains en rappelant que c'est aux Africains de proposer de bons projets. Vous savez qu'avant, c'est plutôt de l'Occident qu'on décide à notre place. On nous a imposé plusieurs plans. On nous dit là où ça marche, là où c'est bon pour nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a mis l'accent sur la transition énergétique, donc qui est l'énergie qui est indispensable au développement. Il a mis l'accent sur le numérique également, sur l'agriculture, la transformation. Donc, ils sont ces domaines-là dans lesquels nos pays peuvent trouver de réelles opportunités donc pour leur croissance. C'est à saluer. C'est un hommage à un président qui a finalement réussi à se démarquer des autres donc dans notre, sur notre continent, à partir des réformes assez courageuses qui ont été faites sur le plan économique. Je ne vais pas revenir aux différents rapports de la Banque mondiale qui citent régulièrement donc notre pays en exemple. Et donc, c'est fort de ces réformes-là et de la vision portée sur un Togolais qui est sur un Togo qui est tourné donc vers son développement, vers l'industrialisation. C'est un peu le spécimen de cette Afrique-là dans ses ambitions que le chef de l'État est allé représenter donc à cette
Merci, rencontre. Merci Germain. Effectivement, Franco, Fognasinga a vanté les mérites de l'Afrique du Togo à ce forum. Il a vanté également le dynamisme de la population du continent africain. Nous approchons les 1,4 milliard, 1,5 milliard avec l'ASLECAF, le plus grand marché a priori dans le monde entier. Il y a également les opportunités d'énergie renouvelable, notamment le soleil, les vents et autres. Mais il a sollicité l'investissement privé. Mais comme le disait Germain, il a également interpellé les dirigeants africains à pouvoir soumettre des projets vraiment bancables pour mobiliser toutes ces ressources-là.
Oui, c'est complexe, hein, tout ce qu'on dit. On a beau avoir la volonté, on a la population. Vous avez dit combien de milliards d'Africains, c'est déjà une base de consommation où il faut produire pour les Africains. Mais là où ça ne va pas, c'est que nous-mêmes, nous proposons des projets qui ne marchent pas. Je prends par exemple le PND que nous avions nous-mêmes, c'est un projet togolais
de développement. Ce n'est 2018-2022, dans sa version originale.
Voilà, qui est devenu quoi, feuille de route. Mais je dis
feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Donc, on ne voit pas véritablement quelle évaluation a été faite de ce projet par rapport à la mobilisation même des fonds, puisque le chef de l'État même s'est déplacé, allé à Londres au cours des séminaires pour lancer les mobilisations. Mais je dis, il y a un fait. On peut beau mobiliser n'importe quel investissement. C'est chez qui on va aller déposer encore ce dossier. Puisqu'on dit de faire de bons dossiers et aller déposer où? Si c'est à la Banque mondiale, au FMI, nous avons déjà fait cette expérience depuis les indépendances. Ça n'a rien apporté parce que la Banque mondiale et le FMI ne peuvent pas venir nous développer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut si les autorités publiques sont devenues des commerçants, si le petit fonds qui est trouvé ici et là pour financer des investissements sont détournés? Donc tant qu'on ne lutte pas contre la corruption, hein, le clientélisme, tout ce qu'on va faire là, c'est-à-dire on court, on met le break, mais il y a toujours l'autre côté de la gouvernance qui tire, n'est-ce pas, les efforts vers l'arrière.
Autrement dit, hein, beaucoup plus de soins à apporter à nos plans que nous proposons.
Oui.
Également, bien gérer ces projets.
Les énergies renouvelables dont on parle, ces énergies renouvelables, pour l'instant, n'ont pas fait ses preuves, même en Occident. Bien sûr, on dit que l'Afrique, c'est le soleil, mais tout ça, on est en train d'importer. On va continuer d'en importer pendant des millénaires, c'est-à-dire les plaques solaires.
Que nous ne fabriquons pas. Et
donc,
nous n'avons même pas l'expertise de pour la maintenance.
Oui, que ce soit l'énergie éolienne, ceux qui ont tenté d'avoir, ça à la maison, je ne sais pas si ça a pu allumer deux ampoules pour eux, parce que j'en vois et des fois à des endroits des choses. Les gens qui ont réussi, ils ont utilisé l'énergie et nucléaire, qu'on dit polluant, mais c'est ça qui permet d'avancer. Il y a l'énergie et hydro et électrique. Qu'on nous dit pendant des années que juste la RDC peut alimenter l'Afrique. On l'a appris à l'école. Mais personne ne s'est mis à deux, à trois, c'est-à-dire que deux États, pour pouvoir essayer de lancer ce process. Donc, les énergies renouvelables, oui, je suis d'accord, mais les énergies renouvelables ont leurs limites, dont
Merci
je viens d'évoquer.
Yao Olivier, Franco émettait également un doute, hein, que des institutions internationales comme la Banque mondiale et FMI puisse être vraiment, puisse réellement favoriser le décollage du continent africain.
Oui, bien sûr que, en tout cas, le FMI a fait ses preuves, ou les institutions de Bretton Woods, comme on a plaisir à le dire, ont fait leurs preuves depuis des années 90 ou je ne sais quoi jusqu'à maintenant. Et ces institutions ne nous ont pas aidés à sortir de l'ornière. Plutôt, selon les spécialistes, ces institutions ou leurs mécanismes sont devenus des goulots d'étranglement ou des instruments plutôt d'endettement pour nos pays. Et parfois, on s'endette à un seuil donné et on nous annonce qu'il y a eu effacement de la dette. Et nous célébrons cela comme des victoires. Et après quelques années, nous nous réendentons encore
auprès des mêmes personnes
auprès des mêmes personnes pour reprendre le même processus. Parfois ça fait sourire ou ça fait rire, d'accord. Bien sûr, au niveau de notre état comme le Togo, on doit tout faire pour attirer les devises ou les investisseurs, je veux dire, vers nos pays, enfin de pouvoir impulser un tant soit peu notre processus de développement. C'est ce que le chef de l'État fait, et ce n'est pas superfétatoire d'aller à ces genres de rencontres, de chercher à séduire les investisseurs étrangers, parce que on sait que même aux États-Unis, et voilà, ce sont des investisseurs privés qui développent les économies, ça on le sait, et les États africains font l'effort pour aussi emboîter ses pas, mais j'ai l'impression que le processus soit à du point d'allèle où ça ne réussit pas, d'accord, parce que combien de foras nous n'avons pas été pour séduire les gens. C'est vrai, les gens sont arrivés, pays A, d'autres sont arrivés et sont implantés, ils ont fait sortir plusieurs centaines de Togolais ou bien milliers de Togolais dans le chômage. Mais je crois qu'il faut mieux repenser la chose pour toucher ou bien atteindre l'objectif précis que nous voulons. Pour terminer, quand même, j'aimerais quand même relever ce que Franco a dit. Je crois que nous avons tout pour notre décollage économique. C'est-à-dire, en termes de devises, en termes de moyens, nous l'avons dans nos pays. Le Togo n'est pas aussi grand, mais en termes de richesse, nous avons assez de moyens pour pouvoir faire développer le pays. Là où le problème se pose, et là tout le monde le sait, même au niveau gouvernemental, on le sait, c'est la question de la gestion des ressources qui sont à notre portée. D'accord ? Ces ressources, comment elles sont gérées ? Nous savons tous que voilà, des gens s'amusent avec les deniers publics. Et ça, ce n'est pas un secret. Si on arrive à colmater ces brèches, je crois qu'au moins on aura fait la moitié du chemin. Maintenant, il faut faire des placements qui soient efficaces pour le pays. Il faut investir là où ça va rapporter, là où ça va faire sortir des milliers de Togolais du chômage et permettre
le développement. Merci. Là, vous indexez la corruption, la mauvaise gestion. Je rappelle que pas plus tard que cette semaine, la APRUSIA a terminé par secourir une grande tournée de lutte contre la corruption, pour dire que nous en sommes conscients, nous en souffrons, mais nous ne sommes pas hypocrites. C'est nous également qui sommes corrompus, qui sommes corrupteurs. Alors si nous arrivons vraiment à changer de comportement, nous pourrons éradiquer ce mal. Gokson, donc ce 22e forum économique international sur l'Afrique, tenu à Paris, a été co-organisé par l'OCDE et la Commission de l'Union africaine. Et comme nous le disons, Faure Gnassingbé a été le seul chef d'État africain invité à ce forum-là. C'est sûrement ce qui vous a inspiré. Liberté a produit cette réflexion à la page 2 intitulée Togo, comment Faure Gnassingbé soigne sa stature de médiateur régional et peut-être même continental.
Bien, ça, je veux commencer par la fin de ton intervention en parlant de la APRUSIA. Je vais prendre les autres citoyens à témoin que le temps de la communication à APRUSIA doit être terminé. Désormais doit venir le temps de l'action. J'ai dit.
Mais pour la nouvelle version, enfin pour la nouvelle version de la puisque la communication, la sensibilisation font partie des actions à mener par la
puissance. On ne va pas communiquer ou sensibiliser durant tout le mandat. Il est temps qu'on passe.
Et concrètement, qu'est-ce que tu entends par action?
Je l'ai souvent dit ici. Si nos autorités veulent drainer plus d'investisseurs dans notre pays, il faut qu'il y ait des baromètres qui démontrent que nous faisons des efforts. Comment comprendre que la APLUSIA, qui est la seule institution à même de lutter contre et de la corruption, n'est pas dans ses prérogatives d'approcher les hautes autorités? Seule la haute cour de justice a ses prérogatives là. Or, la haute cour de justice n'est pas encore installée à ce jour. Donc finalement, je me demande, je suis tenté de me convaincre que ça ressemble à un folklore. Autrement, on devrait charger la APLUSIA, que ce soit un député, un haut magistrat, un ministre, quand il y a soupçon de malversation, que la APLUSIA
renforce la APLUSIA dans ses programmes.
Voilà.
Mais, ok, mais revenons donc.
Maintenant, parlant de ce 22e forum, j'aime que nous soyons fidèles aux mots. Tout à l'heure, quand j'entends dire que notre chef d'État est le seul chef de président invité, je doute. Je peux comprendre si on me dit que c'est le seul chef d'État à avoir répondu à l'invitation de l'OCDE. Ça peut passer. En ce sens que nous sommes 54 États africains. Vous n'allez pas me faire avaler cette couleur qui veut que le Togo soit en avance sur quelque état que ce soit, tant en superficie, en gouvernance ou en je ne sais quoi.
Non, nous ne te faisons rien avaler.
Mais quand on dit, par exemple, que Togo Matin a écrit que notre président a représenté l'Afrique, est-ce que ce sont les autres, ces pères qui l'ont mentionné de représenter le continent? Je suis sérieux. Que notre président ait assisté à ce forum est une très bonne chose. Donc, limitons-nous au fait que notre président est le seul à avoir répondu à l'invitation de l'OCDE. Voilà. Maintenant, quant au contenu de ce forum, tout à l'heure, Francis parlait de la gouvernance et autres. Je n'en veux pour preuve que ce devant quoi on nous a mis, parlant de la constitution de la commission au niveau de l'Assemblée nationale pour enquêter sur les fonds Covid.
Oui.
SAS, il faut que nous apprenions à être sérieux. Pourquoi? Ils sont 27 députés. 27, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 27 députés qui vont enquêter sur cette affaire. Et le minimum pour la commission, ça va prendre 45 jours. 27 députés, ça veut dire que je ne sais pas ce qui est consacré. Est-ce qu'ils n'auront pas droit à des per diem de travail? Qu'est-ce qui sera produit à la fin de ce rapport? Ne me dites pas d'attendre à la fin, parce que c'est comme pour justifier la prorogation du mandat des députés qu'on vient nous, je ne vais pas utiliser cette expression, qu'on vient nous mettre devant le fait accompli de la commission qui est censée produire quel travail ça va produire, puisque la Cour des comptes a déjà sorti des choses. Moi, j'aurais aimé que ce soit la APLUSIA justement qui se charge de ce dossier plutôt que de charger des députés dont nous avons du mal à maîtriser les curricula qui vont passer 45 jours au minimum et après on va nous produire un dossier.
Sur le sujet justement, le dernier numéro du Tampa Express titre Covid Business, l'Assemblée nationale togolaise s'abjure à propos de l'audit du fonds. Le peuple doit-il rire ou pleurer? C'est un article que nous vous recommandons. Mais revenons donc à notre menu ici. Pour continuer avec les appréciations de deux partenaires du Togo, à savoir la BAD la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Commençons donc avec ce que nous rappelle l'hôpital, la coopération entre le Togo et la Corée du Sud. Victoire Tominga Dogbe qui a reçu en audience son homologue de la Corée du Sud cette semaine. Là-dessus, le confrère L'Union écrit 60 ans de coopération pour Corée du Sud. Le premier ministre Hank Duk-so au Togo perpétuer les liens d'amitié. Le Canard indépendant, pour sa part, à la page 6, nous écrit que Séoul sollicite le soutien de l'OMI dans la perspective de l'exposition universelle de 2030 que la Corée du Sud veut abriter. La Corée du Sud également qui veut être candidate au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO pour 2023. Ces deux sujets qui ont été au menu de l'entretien entre Victoire Sidibé-Omega Dogbe et l'org sud-coréen. Togo Matin également en parle à la page 3, vers un mécanisme de suivi de la coopération entre le Togo et la Corée. Et l'éveil de la nation aussi écrit à la page 3, dans l'optique du réchauffement d'une relation vieille de 60 ans, la Corée du Sud et le Togo, comme nous le redécouvrons, c'est une opération vieille de 60 ans, pas beaucoup de bruit, mais avec des faits réels. Je ne sais pas déjà combien ne roule pas ici avec des véhicules Hyundai qui est de fabrication.
Hyundai, le Tucson. Mais vous savez, la Corée du Sud, si nous voulons vraiment être partenaires, il faut qu'on applique leur politique en matière de corruption. Mais quand vous prenez
de lutte contre la corruption.
Là-bas, quand vous touchez à un rond public, vous passez en prison directement, on ne blague pas. Et puis un ministre ou un commis de l'État qui met la main dans le plat public est systématiquement démissionné et va devant la justice. Et Godson l'a dit tout à l'heure, l'affaire de Apprucia, c'est devenu sensibilisation. On ne peut plus compter sur l'Apprucia pour poursuivre qui que ce soit. Vous avez vu même, lorsque on avait traité le cas de la route Lomé-Vogan, la CAN 98, quand...
Non, la CAN 2013.
La CAN 2013-2015, ça a été juste remis au tribunal, alors qu'au tribunal, nous n'avons pas cette recours de justice pour juger les groupes placés. Donc, si le chef de l'État veut véritablement, avant d'aller chercher des fonds à l'extérieur, il n'a qu'à mettre en place, tout comme on vient de mettre en place une cour de justice militaire, de mettre en place cette haute cour-là et de siffler la fin de la gabégie. D'accord ? C'est à cette seule condition qu'on peut d'abord assainir la maison, assainir nos gestions avant d'aller chercher de l'argent de l'extérieur et qu'on sache...
C'est le principal enseignement que tu souhaites que nous tirions de notre coopération avec la Corée du Sud.
Voilà, et toucher tous ceux qui ont le double poste, les retraités qui sont encore au poste, qu'ils mettent d'abord, et disons, la lumière, et cette affaire, et qu'une personne n'ait qu'un seul poste. Les retraités, que les retraités partent pour aller jouir de leur pension de retraite. Et là, il aura créé de la richesse dans le pays. Et non que les mêmes personnes se tournent en rond et qu'on n'arrive même pas à les toucher.
Merci de la coopération avec la Corée du Sud. Passons maintenant avec les institutions financières, à savoir la BAD, Banque africaine de développement, et la Banque mondiale. À ce sujet, Togo Matin à la page 5 écrit « Projet de développement, amélioration du portefeuille de la BAD au Togo ». La BAD qui est engagée aux côtés du Togo dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture, de la gouvernance et des infrastructures. Et nous apprenons que la Banque mondiale, plutôt la BAD, porte un engagement total de 211,33 milliards au Togo pour les différents projets dont nous venons de citer les domaines qui sont impactés. Maintenant, avec l'éveil de la nation qui, à la page 4, nous parle plutôt de la Banque mondiale, avec la hausse du portefeuille, avec un taux de décaissement exceptionnel, la Banque mondiale qui félicite le Togo non seulement pour la croissance du portefeuille, mais également par la consommation que le Togo arrive à faire de ses financements. Et le canal indépendant aussi en parle avec en nous situant sur les perspectives économiques. La Banque mondiale qui indique la voie à suivre au Togo. Il s'agit d'un rapport publié le 25 octobre dernier en 2023, rapport sur les perspectives économiques pour le Togo, dont intitulé « Libérer le potentiel croissance au Togo », avec la croissance économique qui devrait se situer autour de 5,2% en 2023-2024, avant de monter à 5,8% en 2025. Et le rapport dit que si le Togo continue à mettre en œuvre un programme de réforme ambitieux, sa croissance pourrait être portée à 7%. Olivier Adja, c'est des perspectives vraiment positives que la coopération avec la BAT et la Banque mondiale nous laisse en voir.
Oui, il faut se féliciter pour cela de toutes les façons. De façon structurelle, je crois que le Togo se fait remarquer, se démarque de plusieurs autres pays. Et sur le plan des réformes économiques, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et en témoigne donc la reconnaissance au niveau international que le Togo récolte. Et je crois aussi au niveau donc de la rencontre qu'il y a eu à Paris. Ce sont des éléments qui ont aussi et plaider en faveur de l'invitation spéciale. N'en déplaise à ce que mon cher ami Godson soutient et pense à cette invitation spéciale adressée au premier de nous tous, tu veux dire le chef de l'État. Nous n'avons aucun élément pour dire que les autres chefs d'État ont été invités, certainement. Mais les seuls éléments que nous avons aujourd'hui, c'est les informations officielles. Oui. Et nous faisons foi à ces informations qui disent que le chef de l'État est le seul pays et président à être invité. Et la preuve, c'est lui seul qu'on a vu là-bas. Donc,
Nos médias.
Non, de toutes les façons. les éléments, les images, tout ça là, sur d'autres médias, on en a vu. Donc, ces éléments prouvent que le Togo, sur le plan, encore, je le dis, structurel, sur le plan des réformes, des efforts au niveau économique, c'est indéniable, nous faisons des efforts. Et le Togo, les perspectives en termes de croissance sont encourageantes. Ceci étant dit, tout cela doit avoir pour finalité la satisfaction de nous tous en tant que citoyens. Donc, du moment où nous avons tous ces chiffres, nous avons tous ces efforts, nous avons toutes ces politiques, mais pour le moment qui n'ont pas d'effet dans la poche du citoyen lambda, nous sommes toujours en train de dire que il faut bien. Parce que la finalité de l'État, la finalité des réformes, c'est de permettre un développement du pays. Et quand qui dit développement, dit épanouissement des citoyens. Donc lorsque tout cela est fait, et nous le saluons, je le réitère, mais que nous ne ressentons pas ça dans notre panier, il faut reconnaître que il y a encore des choses.
Il y a encore du travail à faire. Oui, Germain, donc les portefeuilles de la BAD et de la Banque mondiale qui sont en augmentation. Le Togo, qui selon la Banque mondiale arrive de mieux en mieux à consommer les portefeuilles à nous affecter. Et puis, les réformes économiques également, pour lesquelles le Togo est salué et qui porte ses espoirs de croissance à 5,2% en 2023-2024, même à 5,8%. Et si d'autres réformes sont en œuvre, nous pouvons aller à 7% d'ici 2025. C'est des informations, c'est des perspectives positives que aussi bien l'État que les opérateurs économiques et nous tous, nous devons saisir pour matérialiser dans les faits.
Oui, mais en fait, c'est ce que j'allais dire parce que nous sommes un peu spectateurs de tout ce qu'on dit sur le Togo. Ouais. Vous savez que ça a commencé il y a quelques années, on dit Togo, premier pays réformateur en Afrique. On ne croit pas, on pense que c'est des histoires.
Or,
c'est
et les Togolais s'étaient montrés surpris.
Voilà, or c'est un classement de la Banque mondiale. Le président togolais est le seul invité à Paris et il a parlé largement au nom de l'Afrique. On dit non, il y avait d'autres qu'on a invité, ils n'ont pas répondu, c'est le seul. Non, nous sommes dans un déni qui nous crée nous-mêmes des problèmes. C'est-à-dire, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire de bonnes et de grandes choses. Et aujourd'hui, on le voit sur le plan diplomatique, les victoires que le Togo engrange sur le plan diplomatique, mais c'est assez surprenant. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il se passe rien. Et le président togolais aujourd'hui, après ses réformes en interne, est en train de travailler, vous l'avez dit, sur le plan diplomatique pour un rayonnement du pays. Et donc toutes ces notes-là attirent des investisseurs. Mais ce sont des investisseurs étrangers. Les Togolais continuent par croire que rien ne marche au Togo. Et les gens viennent faire de l'argent au Togo. Il faut qu'on se réveille. Parce qu'il y a une amélioration du climat des affaires. On nous dit, ah bon, les gens créent des entreprises, est-ce que ça survit ou pas? Mais il n'y a aucune étude qui a été faite pour montrer si ces entreprises meurent ou pas. Mais le fait que les gens créent, c'est déjà une bonne chose. Il faut entreprendre. C'est le travail qui crée la richesse. Après, le Togo a beau avoir des financements de ces institutions. D'ailleurs, le pays aussi mise sur le financement privé, le partenariat public-privé, c'est-à-dire que nous ici, si demain nous sommes des hommes d'affaires prospères, nous pouvons travailler avec l'État, faire du business avec l'État. C'est le partenariat public-privé. Donc on vient avoir des privés étrangers et pas beaucoup de privés togolais. Et il y a aujourd'hui, je crois que le Togo a réussi à avoir une embellie, que ce soit sur le plan diplomatique, ça c'est certain, mais sur le plan économique, avec tout ce que vous êtes en train de dire, il faut que les Togolais profitent pour s'insérer. Parce qu'on ne peut pas rester à dire non, ça c'est la Banque mondiale, c'est la BAD, c'est l'OCDE, c'est tout ça. Non, ça ne correspond pas à la réalité. Pourtant, c'est des faits chiffrés, c'est des données comparables à plusieurs autres pays. Et il faut qu'on se réveille un peu parce qu'on est tellement spectateurs et je pense aussi.
Merci. Nous allons passer de ces perspectives, de ces données macroéconomiques à la réalité sur le terrain, comme Olivier le disait tantôt. Et commençons par la 18e foire internationale de Lomé qui va s'ouvrir incessamment. Ce sera du 22 novembre au 3 décembre. Et à ce niveau, l'éveil de la nation nous dit le CETEF, le centre d'exposition et foire, à l'heure des défis. La nouvelle tribune nous en parle aussi dans l'article à la manchette, avec le directeur du CETEF rencontrer la presse pour faire l'état des préparatifs. Lesquels préparatifs vont bon train, parce que le sieur de Souza, directeur du CETEF, qui veut offrir une édition inédite et historique aux exposants attendus à la 18e fois. Je rappelle que ce sera du 22 novembre au 3 décembre prochain. Mais en attendant, la 18e fois, il y a le Miato qui vit son édition numéro 3. Je rappelle que nous étions sur le site hier pour délocaliser le club presse. Nous avons interviewé les acteurs qui s'étaient montrés très optimistes et confiants. Mais cet enthousiasme se retrouve quelque peu douché par cet article du Canard indépendant Godson. Le Canard qui écrit « Au Miato, les artisans font grise mine ». L'article évoque les visiteurs qui ne se bousculent pas dans les allées devant les stands. Et ces allées des stands qui sont clairsemées, même les bars restent pratiquement vides. Les artisans se retrouvent contrariés. Et le Miato qui doit clôturer sa porte d'ici le samedi, le dimanche. Donc voilà une réalité du Miato qui nous fait vivre un peu le contraste entre la perspective et les grandes données macroéconomiques et la réalité que nous vivons.
Que dire de plus, Sas? L'article du Canard indépendant serait l'émanation de liberté, qu'on dirait que c'est toujours liberté. Mais là, ce n'est pas nous. Toutefois, il y a une réalité que le journal a dépeinte. Je suis juste curieux de savoir, par exemple, pour le Miato, et ensuite pour le CETEF qui va s'ouvrir bientôt, il serait bien que le citoyen lambda sache à combien revient la location du stand.
Là, c'est des informations que les gens connaissent. Aussi bien au Miato qu'au CETEF.
Tu parles dans mon parler. Au-delà de ça, j'aimerais parler tout à l'heure de statistiques ou de chiffres. J'aimerais que, à l'issue du Miato ou du CETEF, qu'on ait des données relatives au nombre d'exposants,
de visiteurs, tout ça.
Grosso modo, au chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé par rapport au nombre de visiteurs. Parce que, selon mon analyse personnelle, on ouvre juste les foires pour que des élèves, des écoliers, parfois des étudiants, prennent des bus et ils passent des tours. Ils consomment quelques brochettes, quelques canettes de bière, et puis c'est tout. Mais qu'en est-il des exposants qui, d'abord en interne, ont fait des dépenses pour aller sur le terrain, louer le stand, et des exposants venus de l'extérieur qui sont là pour faire des chiffres d'affaires? On me dira peut-être que la foi, ce n'est pas pour faire des chiffres d'affaires, mais c'est pour se connaître. J'en ai assez de ceux qui aiment jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux des gens. On est là pour prospérer. Revenant à la rencontre de notre premier ministre avec le Sud-Coréen, on a parlé de 60 ans de coopération et d'amitié. Je ne sais pas le nombre d'années de coopération qu'il y a eu entre la Corée du Sud et le Ghana avant que la Corée du Sud ne délocalise une société sud-coréenne sur le territoire ghanéen. Et ça sous-entend quoi? De l'emploi pour la jeunesse ghanéenne. J'aimerais qu'on aille au-delà de cette amitié et qu'il y ait du concret au profit de, du moins nous, sinon nous, du moins au profit de nos, des générations à venir. Autrement, on a assez entendu de visite d'amitié, de coopération. Franchement.
Merci beaucoup. Alors, pour le bientôt, je rappelle qu'il y a 18 pays qui participent, 340 stands érigés, 800 exposants, 200 métiers représentés. Le directeur, le président du comité d'organisation, disait hier au club de la presse qu'ils attendaient autour de 300 000 visiteurs. Espérons que au cours des jours à venir, le bilan sera fait, peut-être sur les visiteurs enregistrés, peut-être également les affaires que chaque exposant aurait pu faire.
Oui, ça c'est...
Oui, Franco.
Donc vous voyez, les foires, la situation économique du pays le montre si bien. Il y a déjà une foire à Togo 2000, la dernière fois, consommer local.
Oui.
Oui, des gens qui sont venus de l'intérieur et autres, qui n'ont pratiquement rien vendu, ils étaient presque à bout de souffle en partant. La situation économique du pays actuellement, avec ces foires, ça ne concorde pas. Les gens vont juste, quelques-uns vont juste visiter, se balader. J'ai écouté hier le Malien qui a parlé. Quand il parlait, j'ai dit, ah bon, donc c'est bien si ça marche comme ça. Mais malheureusement, le terrain nous donne autre chose. Si nous avons des étrangers qui viennent créer des sociétés au Togo et que nous-mêmes nous ne pouvons pas en créer, ou bien nous créons mais nous n'avons pas du job, et que c'est des étrangers seuls qui en font, ça veut dire que notre climat des affaires n'est pas à l'avantage des Togolais. Et allez voir,
peut-être qu'on pourrait dire que c'est nous-mêmes Togolais qui n'arrivons pas toujours à saisir les opportunités que nous offrent les réformes.
Ça ne soutient pas l'entrepreneuriat, l'entrepreneur togolais, ni la capacité du Togolais à aller chercher. Non, écoutez bien. Aujourd'hui, quand vous prenez, je viens de parler de la corruption, on vous attribue un marché, les gens prennent plus de la moitié de l'argent, avant de vous donner le marché, vous allez faire quoi? Mais ces gens qui viennent créer des sociétés passent par des gens, et ils viennent avec des trous. Mais ils viennent prendre l'argent dans nos banques. Les banques sont étrangères. Qui va vous financer? Vous allez chercher de l'argent à financer une activité? Je ne suis pas journaliste.
Je sais que toi-même, tu es opérateur économique.
Je suis
des réalités justes dans
Donc, n'insultez pas l'intelligence du Togolais en
mais
disant
quand
que
même une c'est évidence, des étrangers. Il y a quand même une évidence. Il y a, le Togo a fait des réformes que l'extérieur nous salue. Et nous avons plein d'opérateurs économiques étrangers qui viennent se faire de la richesse
chez nous. Alors, comment est-ce que les gens venus d'ailleurs viennent s'enrichir chez nous et que nous-mêmes, Togolais, nous plaignons toujours d'être plus pauvres?
Je donne des exemples précis. Allez à la PIA. On nous a parlé d'industrie textile, chose. Mais c'est quoi on paye aux gens?
Non, je ne parle pas des ouvriers, je parle des opérateurs.
Oui, pour pouvoir avoir l'argent dans le pays. C'est-à-dire que ceux qui viennent. Vous pensez que des Togolais ne peuvent pas aller à la PIA?
J'ai oublié de joindre à l'environnement économique le fait, l'environnement judiciaire aussi. Plus concrètement, ça. Si mon père, qui aurait hérité d'une partie de l'espace où la cour d'appel et la nouvelle gendarmerie sont érigées, et que l'État, pour cause d'utilité publique, a accaparé. On est d'accord. Mais quand la première instance, la cour d'appel et la cour suprême confirme effectivement que l'État doit indemniser mon parent là depuis 2016, tu imagines ce que cet argent pour les 49 hectares, je dis bien 49 hectares arrachés par l'État, si l'État indemnisait nos familles là, ces familles, vous imaginez le nombre d'emplois,
je comprends ce cas particulier
allez voir Pomer là où la paix a pris,
nous en parlons, mais je reviens encore. Si l'État fait des réformes qu'on nous salue et que des gens, des opérateurs économiques venus d'ailleurs viennent exploiter, viennent s'enrichir et que les nationaux ont du mal à s'en saisir, comment est-ce qu'on peut expliquer ce contraste?
Enfin, ce que je voulais dire rapidement, moi j'ai mon bureau dans un quartier assez commercial et renommé. Je fais cette remarque aux jeunes. Les Ibours qui sont dans notre quartier, à 4 heures ils sont debout, à 5 heures avant 6 heures ils ont ouvert leur boutique, et les Togolais qui sont sur la même voie que les Ibours ouvrent après 8 heures.
Donc toi-même.
Oui, moi-même. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont 2 heures d'avance déjà sur nous, et je ne parle pas de l'heure de fermeture. Peut-être qu'ils ne sont pas chez eux, ils travaillent plus que nous. Donc, c'est pour revenir pour dire que c'est le travail, en fait, qui crée la richesse. Mais si, moi, je dis copions, hein, les gens, faut copier. On a beau les envier, ben, les Ibos, ils sont dans des coins, mais c'est des gars qui bossent. Vous sortez à 4 heures, vous voyez, ils attendent l'ouverture du grand marché de Jérôme. Ah, oui. Ils ont mis le pouce là-bas avant 5 heures. C'est des faits réels.
Ok, c'est des faits réels que
voilà.
Tu partages avec nous.
On ne parle pas des exploitations, des histoires.
Je voudrais qu'on écoute aussi Olivier sur ce contraste-là. Comment est-ce que des étrangers viennent s'enrichir chez nous et que nous-mêmes nous plaignons au jour le jour?
Bon, pour commencer mes propos, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est un phénomène normal. Et dans plusieurs pays, je vais dire peut-être en Afrique, les étrangers ont toujours fait l'effort de réussir ailleurs dans des pays. Parce que quand vous arrivez de l'étranger, vous décuplez votre énergie. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez réussir ou périr. Bon, celui qui est chez lui, bon, vous comprenez.
Il s'accorde des
circonstances. Il y a l'histoire avec la Côte d'Ivoire, avec le Gabon, où les Togolais sont, ou bien les Africains sont jalousés parfois par les nationaux, parce que voilà, donc ça, ce n'est pas un phénomène qui est extraordinaire, d'accord. Bon, l'autre élément peut-être qui s'ajoute à notre pays, et je n'ai pas fait des statistiques ni je n'ai pas à ma disposition des statistiques, mais on a l'impression que notre économie est contrôlée par les étrangers, je veux dire. Je n'ai pas les éléments.
Parce que mais
c'est une impression. C'est le champ libre, en fait.
Olivier, c'est ça, j'en viens. Ça, c'est une impression. Non, ok. Vous avez l'économie entre les mains. Ce n'est pas de la xénophobie, hein, mais c'est un fait que je fais remarquer. D'accord. Donc, c'est une réalité qui peut-être a été installé depuis plusieurs années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Maintenant, quelle est notre responsabilité en tant que Togolais en face de cela? Parce que nous avons des difficultés. Et vous voyez des gens qui font de l'économie togolaise une vache à lait et qui transportent leurs devises ailleurs. Donc nous n'avons pas de la liquidité dans le pays parce que les gens exportent. Il y a le cas du Niger la dernière fois, où 100 millions sont sortis du pays. Je ne sais pas par quelle voie. Ce sont des éléments qui sont réels maintenant.
Donc, c'est des réalités.
La responsabilité du Togolais, c'est quoi?
Il est midi, passé d'une minute. On n'a pas le temps de débattre des questions politiques, mais je vous en fais juste une revue de presse sur la situation politique. Commençons par ce que Liberté écrit à la page 300 des tout. Le Togo, est-ce que le Togo est en mode de pilotage automatique? L'article de Liberté dit que Faure Gnassingbé donne l'impression d'être fatigué. Il manque d'idées et d'initiatives pour insuffler un souffle nouveau au Togo. Et l'article continue avec la situation fort affligeante et préoccupante dans plusieurs institutions de la République, où les membres sont en fin de mandat depuis des années, mais sont toujours maintenus à leur poste. Une autre situation de laxisme doublé d'un autisme sévère dans plusieurs sociétés d'État. À côté, il y a un autre article au fait que Adeyemi Kodjo, depuis son champ de maïs ou autre, a été reçu sur les antennes de la TV5 Monde. Reçu sur TV5 Monde, Adeyemi Kodjo revient sur les dessous de la présidentielle de 2020. Adeyemi aussi a parlé des institutions qui sont hors délai, mais dont les membres sont toujours en fonction. Et puis, cette caricature de Liberté à la page 5 qui dit « Une année électorale sans élection à l'horizon ». Et ce qui nous amène à ce titre de Tampa Express, le Togo est-il en retard dans l'organisation des élections législatives de 2023? Comme je le disais, non pas le temps d'en débattre, mais chacun va méditer un peu sur ces titres pendant que nous allons à la pause et que nous rebondissons tantôt avec les auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour au studio avec tous les confrères autour de moi. Les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75, pour recueillir vos questions, vos commentaires. Il y a déjà quelqu'un qui s'annonce. Ok, en attendant, premier auditeur, peut-être Franco, un petit commentaire sur la revue de presse sur la situation politique.
Oui, bon, sur la situation politique, elle est totalement morose. En principe, comme l'a dit Gosson, l'Assemblée nationale devait rendre cet tablier au 31 décembre, mais il y a une prolongation tacite qu'on ne comprend pas. Et ce qui dit qu'en 2024, peut-être déjà au premier trimestre, on va commencer par avoir, ces élections qui vont venir en commençant par la révision.
Autrement dit, on est parti pour ne pas pouvoir renouveler l'Assemblée d'ici le 31
décembre. Qui devient aussi illégal, encore plus illégal que les autres.
Merci Franco. Un auditeur s'annonce déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Nyamavo.
Oui, monsieur Nyamavo, nous écoutons.
Oui, je salue le plateau.
Nous vous saluons en retour.
Oui, vous savez, depuis la période 2018-2022, où on nous a annoncé en pompe PND, que vraiment investisseurs locaux, étrangers, ça va faire quoi? Souvenez-vous que c'est dans cette période qu'il y a eu une naissance de trading et son enterrement. Ben, rien n'est fait. Comment se fait-il qu'à la TVT, Maïmouna Sou va aller parler de trading avec Kassetik, le directeur de Kassetik, Digo, et puis on se tait. Les gens investissent. Après, les journalistes très heureux, très techniciens, ils viennent nous dire que non, on connaît Kassetik dans l'alimentation, on ne connaît pas Kassetik dans le trading. Vous voyez, et l'argent est parti comme ça en fumée. Et jusqu'alors, depuis ce temps, les montants ont commencé par payer les péages. Le gaz est doublé, c'est-à-dire au Burkina Faso, c'est 2000. Au Togo, tu prends 5000, tu vas acheter 2 gaz au Burkina Faso. Tout, Vous pensez qu'on va croire encore?
Merci, monsieur Nyamavo. J'espère que vous rappelez bien tout ce que les médias avaient dit en termes d'information au moment du trading. Hein? Bien sûr, hein, cette affaire avait été traitée sous tous les angles. Et ceux qui n'ont pas écouté les journaux, qui sont allés investir, bon, nous sommes désolés pour eux, mais l'affaire est à la justice. Les promoteurs du trading sont arrêtés. Espérons que d'ici un jour, le procès va s'ouvrir. Merci, monsieur Nyamavo. À propos d'ailleurs de justice, il y a cet article de Le Canard indépendant qui revient sur le tribunal militaire. Avec cet article, un procès sur fond de rite traditionnel et des non-dits. Et l'audience a eu lieu hier, aujourd'hui sûrement, avec les révélations issues des témoignages des uns des autres. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Agbogbo Alain, Kodomé.
Monsieur Agbogbo Alain, depuis Kodomé, nous vous écoutons.
Oui. Tout d'abord, je vous ai appelé hier pour concernant votre secrétariat pour avoir le numéro. Mais quand j'ai appelé le numéro, ils m'ont raccroché au nez. Je n'ai pas compris.
Ok, l'essentiel, c'est que vous avez le numéro sur lequel vous appelez aujourd'hui.
Oui, oui.
Ok, nous écoutons.
J'aimerais dire à notre grand frère journaliste que ça dit, il ne s'agit pas d'être l'avocat du gouvernement qui voulait défendre le gouvernement qui vous détient. Pas bien.
Non, l'ami Alain, Alain, je vous arrête. Hein. J'ai autour de moi des journalistes. Chacun analyse l'information selon ses sources et selon son analyse. Je n'ai pas de journaliste avocat du gouvernement, avocat de qui que ce soit ici, s'il vous plaît. Sinon, vous-même, on vous prendrait pour, on vous classerait dans un camp, ce qui ne serait pas bien.
Monsieur Sass,
oui.
Je ne m'en disconviens pas.
Oui.
Mais ce qu'on sait, il y a des réalités qui sont là. Pourquoi ne pas en parler?
Nous en parlons, c'est pourquoi nous donnons la parole. Eh bien, partagez votre analyse avec nous.
Si jamais Poli, toutefois qu'il est au plateau, défend le gouvernement, moi je ne comprends pas.
Alain, ce que vous dites là, quelqu'un qui vous écoute pourrait également vous classer dans un camp. Nous sommes dans la liberté d'expression. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit X, mais c'est son droit, c'est son analyse. Hein, on peut ne pas être d'accord, mais ne pas s'indexer, ne pas s'invectiver outre mesure, s'il vous plaît.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Sass. Bonjour, M. Pouli. Bonjour, M. Araki.
Didier.
Bonjour, M. Gonton. Bonjour à mon ami de Tampa.
Oui.
M. Arakiri, vous n'avez pas des éléments vous permettant de dire que le président togolais n'a pas été le seul invité. Est-ce que vous avez des éléments vous permettant de dire qu'il est parti représenter tous ces pays de l'Afrique qui l'ont mandaté? Bon, c'est une question.
Bon, Didier, alors, est-ce que vous avez des éléments contraires pour dire que d'autres chefs d'État ont été invités?
Non, moi, c'est lui qui dit qu'il n'a pas d'éléments. En tant que novice, je pose certaines questions. Comme il n'a pas des éléments permettant de dire que il a été le seul invité. Donc je voulais savoir, et comme il a dit aussi que ce père l'a mandaté, je voulais savoir s'il a les éléments pour pouvoir nous affirmer qu'effectivement son père l'a mandaté.
Non, Didier, ce que je reprochais à notre ami Alain, je vous en fasse la même remarque aussi.
Bon, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je retire alors.
Ok.
Bon,
entre gentlemen, on se comprend très bien.
Oui,
évoluons.
Bon, c'est pour faire rire un peu à monsieur. Et bon, moi je compatis tellement à la douleur aux Palestiniens et aussi aux Israéliens. Mais ça me rappelle aussi ici au temps, il fut un temps aussi que lorsque nous manifestons, il suffit qu'une seule personne lance un carré militaire, il rentre dans tout le quartier, il tabasse dans toute la maison. Donc, c'est pas seulement une vraie que ça se passe. Et puis, pour parler aussi de l'économie, vous savez, j'ai lu un article aujourd'hui là, dans le monde Afrique, là, comment Fonya Singe soigne son statut de médiateur régional. Vous avez lu l'article là. Ce que nous faisons, si l'on pense que les gens ne nous voient pas les cheveux, c'est faux. Le régime là, il est fatigué, il ne peut plus rien donner de nouveau. Ça, c'est la nature même, quoi. Arrivé un moment, vous êtes bloqué, mais pour toute la volonté que vous avez, vous ne pouvez plus rien. Parce qu'ils ont l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tout. C'est la nature même. Donc ils n'ont qu'à essayer de, comme d'ailleurs le dit souvent, s'éclipser un peu et puis revenir après. Le pays va marcher. Mais tout ce qu'ils font, c'est de la comédie. Vous êtes sale en bas et puis vous voulez montrer l'extérieur que vous êtes bien. Ça, c'est la comédie. Tout investisseur qui vient dans ce pays, il fait une prévision. Il sait que quand j'investis dans 10 ans, dans 50 ans, 20 ans, mais si la verrue est bouchée, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce que je peux investir? Je vais investir quelque chose dans un pays comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que vous n'êtes pas dans un régime démocratique. Donc les investisseurs, ils viennent donc faire un coup et puis part. Ils viennent, ils bouffent et puis part. Ils ne développent pas le pays. C'est pourquoi on ne voit jamais tous ces investisseurs, on ne voit jamais leur participation dans le business.
Merci Didier, mais c'est une réalité que je laisse le seul à chacun d'apprécier. Mais les opérateurs économiques font des affaires dans des pays où les gens sont au pouvoir depuis avant ma naissance. Et les affaires continuent aussi bien là-bas aussi. Prochain auditeur. Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, c'est monsieur?
Benoît Dagoué,
nous écoutons.
Bon, je salue le plateau.
Mm-hmm.
On dit chez nous, et nous disons Toval et Didina.
Mm-hmm.
Bon, je fais allusion à la participation du chef de l'État au sommet en France. Je ne sais pas ce que le chef de l'État. Bon, on nous a pas. Je n'ai pas vu la vidéo du chef de l'État au sommet en France. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Chez nous, on dit.
Benoît Dagoué, la TVT a diffusé intégralement l'allocution du chef de l'État, je crois que c'était mercredi. Et même Radio Le Mai hier.
Ah, ok. Et je m'excuse. Sinon, j'ai suivi le journal du mercredi. 20 heures, c'est,
okay.
On a fait seulement trois fois, on a fait que répéter trois fois le message quoi.
Non, je confirme parce que moi j'ai écouté la TVT a diffusé intégralement le discours de Faure Gnassingbé le mercredi et hier même un large reportage a été fait sur un panel auquel Faure Gnassingbé était également participant.
Ok, merci. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Je me réjouis que nous sommes très fair play aujourd'hui, nous ici au studio et également les auditeurs avec nous. Un dernier auditeur. Allô l'ami.
Allô.
Bonjour.
Bonjour monsieur Sass.
Papa Sardinien depuis Amoutievé.
Voilà.
Nous vous écoutons.
Le chef d'État là, il fait des multitudes de travailler sur l'Europe, cherchant des investisseurs. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Toujours il faut des trajets, des va-et-vient, mais il n'y a pas tant d'investisseurs. Ils n'analysent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils sont abondés de quoi là? De multitudes de taxes, de factures d'eau, des habitants, de ces machins. Donc tout cela, c'est ça qui fait sur les investisseurs. Ils n'ont qu'à analyser. Merci, bonne journée.
Je vous en prie, je ne défends aucunement aucun chef d'État, mais aujourd'hui, le monde est ainsi fait que les pays les plus riches, les plus développés, c'est les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et les autres. Les institutions qui sont censées porter l'économie, la Banque mondiale, le FMI, sont situées dans ces pays-là. En France, il y a le Club de Paris avec la tradition des systèmes économiques. À côté, il y a le pôle Moyen-Oriental qui se développe avec les pays arabes, les pétro-monarchies, c'est ça? Mm-hmm. Si bien que ne nous en déplaise, mais c'est vers cela que nous allons aller maintenant chercher les financements, quitte à nous maintenant de travailler, de nous enrichir et de constituer nos propres banques. Franco Napokoura, pour faire un tour de conclusion, une minute.
Oui, pour preuve ce que vous dites, on met de l'argent dans des filières et ça n'évolue pas et on tourne en rond. Je prends le cas du café cacao. J'ai suivi la dernière fois le reportage. On a encore moins de 15 000 tonnes de café cacao pour l'exportation. Alors que le pays, le gouvernement a mis des fonds pour les plantations, c'est-à-dire pour développer les plantations de café cacao. C'est des milliards, encore jusqu'à 10 milliards. Et à l'époque, on était à 15 000 tonnes, et je crois, et pour le chef de l'État, c'était de doubler, sinon voir aller au-delà du double de la production. Mais quand on investit dans ces domaines, C'est de l'argent.
Que
c'est
les fruits ne suivent pas toujours.
Oui, et c'est de l'argent qu'on est parti chercher.
Est-ce qu'il y a une idée de notre rendement? Combien de café nous produisons à l'hectare? Combien de cacao nous produisons à l'hectare? Combien de coton nous produisons à l'hectare?
Voilà.
Alors, il faut s'interroger également
les fonds ont été mis pour l'amélioration des champs et non s'adosser sur les vieux champs. Malheureusement, les espaces n'existent pour lesquels on a financé n'existent pas. Pour montrer, on va amener le chef de l'État à lui montrer le champ d'un privé, que c'est là-bas, que oui, alors que la personne, même pas ses efforts, hein, a fait son champ de café, cacao, ou a fait sa pisciculture. Voilà comment les choses vont. Et on dit qu'on décolle.
Merci. Je peux vous dire que Franco s'y connaît un peu, hein, en café cacao. Il a des parents dans la zone. Lui-même, il s'y est essayé un peu. Et il ne parle pas de lui-même. Mais ce qu'il a investi, qu'est-ce qu'il en a récolté? 3 points de suspension. Olivier Yawadja.
Non, j'aimerais seulement relever que j'ai jamais dit que j'ai pas d'éléments sur le voyage du chef de l'État à Paris. J'ai dit que j'ai pas d'éléments sur les questions de croissance qui sont annoncés pour le Togo et quels sont ses impacts dans la vie des citoyens. Et que même si je n'ai pas d'éléments statiques, je sais que ça ne nous profite pas assez ou beaucoup. Là, je n'ai pas d'éléments. Mais pour le voyage, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos, bien sûr, et sur la TVT comme ailleurs, donc j'ai des éléments pour dire que le chef de l'État était seul et certainement qu'il a représenté ou il a parlé au nom de l'Afrique. D'accord. Donc, on ne peut pas se faire des étiquettes pour... ces questions. C'est notre chef d'État. Et si on dit qu'il a représenté l'Afrique, mais moi, je serais plutôt fier. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi je vais vouloir jeter de l'ombre sur cette affaire pour dire que non, pourquoi on dit que le chef de l'État togolais, qui est le chef de l'État de tous les Togolais, soit invité et que soit honoré. Quelles que soient les questions politiques, pour le moment, c'est lui qui est là. Pour le moment, c'est lui qui défend l'image de notre pays. Alors, quelle situation serons-nous lorsque on travaille à jeter l'opprobre sur l'image de notre propre pays? Je crois qu'il faut enlever les questions politiques dans ce sentiment qui ne nous honore pas.
Godson Ketamanya.
Oui, sans donner l'impression de soutenir une expression que j'aborde, l'actuel locataire du ministère des Finances, depuis qu'il est là, j'ai du mal à trouver les sujets croustillants en économie pour exposer. Son prédécesseur, lui, il nous en avait fourni suffisamment. Mais celui-ci, en apparence, j'ai l'impression que c'est la tête. C'est pas mal. Mais comment faire pour que cette rigueur qu'il imprime au niveau de son ministère, que ça rejaillisse sur tous les pans de l'économie? Franchement,
Watson, c'est justement le travail du journaliste de s'inviter dans les secrets, de trouver les informations.
Godson, pardon, laissez cette rigueur-là, allez sur autre chose, après on va en parler. Je vais vous trouver des astuces, des sujets.
D'accord. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. Sorana Germain-Pouli.
Oui, en fait, ce que je voulais quand même dire aux auditeurs, il y a la vie chère aujourd'hui. C'est pas propre au Togo, c'est pas propre aux pays africains, même en Occident, les populations se plaignent. Alors quand nous parlons des efforts de l'État, c'est pas pour dire que nous sommes à l'aise. Hein. Nous sommes de ceux qui disons que la presse est dans la précarité. Nous payons mal nos collaborateurs, nous-mêmes, nos entreprises se portent mal. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est forcément la faute de l'État. Est-ce que nous ne pouvons pas penser à faire autrement les choses? Nous aussi, nous demandons des choses à l'État, nous demandons d'augmenter l'aide de l'État, nous demandons la mise en place d'un fonds de soutien à la presse, tout ça. Mais en réalité, on peut aussi chercher d'autres moyens et aller, et nous, on se dit là-bas, c'est le travail. Donc quand nous parlons, ben, j'ai écouté quelqu'un dire défenseur de l'État et tout ça, mais quand on parle des Chinois, c'est pas des démocrates. Mais c'est des travailleurs. Quand on parle des Rwandais, ce n'est pas des démocrates. Les Allemands, ce n'est pas des démocrates. Mais il y a des peuples qui travaillent et qui deviennent prospères. C'est la base, quoi. Si vous étudiez l'entrepreneuriat et si vous voyez nos mamans, nos vieilles qui se battent, qui ne sont pas allées à l'école, qui ont fait des réalisations, c'est le travail. Donc, ce n'est pas une histoire politique. Et puis, quand moi, j'écoute tout à l'heure le débat sur Fonia Simbe, je me revois sur le cas d'Adebayor. Parfois, on avait un très grand joueur, mais les gens tiennent à le ramener en bas. C'est comme si tout ce que le Togo fait de bon, certains croient que c'est pas possible, que ça vient du Togo. Donc il faut se convaincre que c'est toujours mauvais. Non, il faut évoluer parce que demain, peut-être, ça sera vous dans votre domaine. Quelqu'un viendra dire, mais voilà un journaliste togolais qui a reçu un prix. Hein. Par exemple, Francis, on va dire, non, il est nul, il ne vaut rien, on ne sait même pas par où il est passé, qui était dans le jury, tout ça. Non, il faut arrêter tout ça.
Pourquoi vous donnez mon exemple?
Oui, je donne un exemple.
Pas mon nom. Oui, pas mon nom quand même.
Merci.
Je mérite ce jour.
La semaine qui finit. Merci. Merci à vous, Franco, Olivier, Godson, Germain. Merci à tous les confrères qui ont défilé dans ce studio depuis lundi dernier et que nous allons retrouver tout au long de la semaine à venir et tout le temps que Dieu nous prêtera vie sur, ici sur Terre. Pour le moment, nous marquons un break. Nous allons en week-end. Et encore une fois, tout le canton de Haute qui est en deuil. Ce soir, il y aura la veille de chant de prière pour Monsieur Adjoto Yao Christophe, ex-représentant du chef canton, qui sera enterré demain. Mais je sais que il y a un peu de deuil ici et là. Nous nous souhaitons bon week-end, toutes les condoléances, avec l'espoir que lundi nous allons nous retrouver dans ce studio de Canal FM pour nous entretenir au jour le jour par le Club de la Presse.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Je prends ma vie.